Radio Okapi.
Les journaux, Martin Sebujamo.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, les titres du journal. La réinsertion de la femme victime de violences sexuelles doit se faire dans sa communauté et non en dehors. C'est une des décisions prises par la Conférence internationale sur la réinsertion des femmes victimes de violences sexuelles qui s'est clôturée ce vendredi à Goma. Mbusima, un agent de la MIBA, la minière de Bakwanga, a été blessé par balle, perdu il y a deux jours au polygone minier. C'est le énième incident de ce genre enregistré dans ce carré minier de l'entreprise minière du Cassé Oriental. Et puis le procès Floribert Chebeya a une nouvelle audience fixée au 10 décembre prochain. La réinsertion de la femme victime de violences sexuelles doit se faire dans sa communauté et non en dehors. C'est l'une des recommandations prises à l'issue de la conférence internationale sur la réinsertion des femmes victimes de violences sexuelles qui s'est clôturée ce vendredi à Goma. Pendant deux jours, une cinquantaine de personnes, majoritairement des femmes venues de la Suède, de la Bosnie-Herzégovine, du Rwanda, du Burundi ainsi que de la RDC, ont passé en revue différents problèmes de la réinsertion de la femme victime de violences sexuelles en RDC. Cette conférence a été organisée avec le soutien de l'ONG suédoise Kivina, Til Kivina, qui signifie femme pour femme. Bernard Nyangui pour les détails.
Les participants à cette conférence se sont réjouis d'apprendre qu'il existe déjà en RDC une stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et qui est en exécution à l'est du pays à travers le programme STAREC. Toutefois, ces femmes recommandent au gouvernement d'impliquer la femme dans les actions à mener, mais aussi aux ONG intervenant dans le domaine des violences sexuelles, d'éviter des interventions de nature à stigmatiser encore plus les victimes. Anima Tundo, présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en RDC.
Nous avons dénoncé ce problème de victimes de violences sexuelles, de les mettre comme des animaux dans un zoo où les gens peuvent venir les voir, les visiter en disant voilà, ce sont ces femmes-là qui sont violées. Parce que c'est ça que nous déplorons, la stigmatisation. Elles doivent réintégrer dans leur propre communauté. Il y a le programme STAREC qui existe déjà. Elles ont créé des comités et malheureusement nous déplorons que les femmes ne s'y retrouvent pas.
Signalons que cette conférence avait pour objectif de mettre en place des stratégies communes pour la réinsertion des victimes des violences sexuelles à l'est de la RDC. Cela après une leçon tirée d'un échange d'expérience entre la Bosnie, le Rwanda et la RDC. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Toujours le Nord Kivu où la responsable de la section de protection de l'enfant au sein de la MONUSCO à Kinshasa a dénoncé jeudi dernier la complicité de toute la communauté du Nord Kivu dans les cycles infernaux des recrutements des enfants par les groupes armés. Madame Judith Lavoie estime que malgré le soutien du gouvernement congolais ou de la communauté internationale, aucun programme de réintégration des enfants ne pourra aboutir tant que les recruteurs d'enfants bénéficieront de la complicité de certains leaders de la communauté. Judith Lavoie, au micro de Jules Galawamouna.
Il y a des leaders dans la communauté qui dénoncent les enfants qui retournent. Et les recruteurs viennent les chercher jusque dans l'école. Ils menacent les parents dans les familles. Les parents doivent payer une rançon pour faire sortir les enfants ou pour éviter que les enfants soient recrutés. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant lui-même qui est menacé. C'est sa famille, l'école dans laquelle il est intégré et la communauté dans laquelle il essaie de se réinstaller. Et on en a un, là, cette semaine, qui est rentré chez lui. 4 heures après, il était ré-recruté. De force. On pourra accuser tout le monde de dire qu'il n'y a pas de programme de réintégration qui marche. C'est que si la communauté n'accepte pas de contribuer à bâtir l'avenir dans le présent, pour ces jeunes, on n'y arrivera jamais. Donc on ne peut pas dire que les organisations de la protection de l'enfant sont inutiles ou que le gouvernement ou que les donateurs ou que les institutions n'ont pas de programme pour permettre de réintégrer les enfants, mais ce n'est pas des programmes que ça prend, c'est une volonté de la communauté, une volonté de l'ensemble de la société pour dire « il faut arrêter ».
On reste encore au Nord Kivu avec le lancement des travaux de construction du pont Katia dans la commune Katia de la ville de Butembo. C'est le gouverneur du Nord Kivu qui a procédé à cette cérémonie hier vendredi. Julien Paluku, qui poursuit sa visite dans la ville de Butembo, a aussi remis un lot important des fournitures scolaires à la division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du Nord Kivu 2. Ces matériels composés de 850 cartons de cahiers seront remis aux écoliers du secteur public et privé, a précisé le gouverneur du Nord Kivu. Des détails avec Étienne Mouindo.
Les travaux de construction du pont Katia sont estimés à 71 747 dollars. Le pont sera construit sur fonds propres du gouvernement provincial, a déclaré le gouverneur Julien Paluku, avant d'ajouter que son importance est non seulement urbanistique, mais aussi commerciale. Ce pont va relier la ville de Butembo à la localité de Kiamboho dans le territoire de Lubero. Il aura un impact positif sur le trafic entre les deux entités, a-t-il poursuivi. Pour l'ingénieur Achille Moholongu, responsable du bureau de construction au Nord Kivu et maître d'œuvre, le pont sera construit en pierre et en fer. Il a promis que les travaux de construction du pont Katia prendront 6 mois. A noter que 3 autres ponts, construits dans la ville de Butembo sur fonds propres du gouvernement provincial, sont en voie d'achèvement. Butembo, Etienne Mwindo, Radio Okapi.
Mbujimayi est agent de la MIBA, la minière de Bakwanga, a été blessé par une balle perdue le mercredi dernier au polygone minier. Cela s'est produit exactement au chantier NLK2, nouvelle laverie de la Kanchi 2. C'est le énième incident de ce genre enregistré dans ce carré minier de l'entreprise minière du Kasaï Oriental. Les premiers résultats de l'enquête effectuée par la commission mixte des brigades minières et MIBA indiquent qu'il s'agit des suicidaires ou creuseurs clandestins armés qui opèrent à Loamuela sur la partie sud du polygone minier qui en sont responsables. Des détails avec Esther Ndalafina.
La victime de ce cas d'insécurité affirme que l'après-midi de mercredi, à l'heure de la pause, lui et ses collègues travailleurs du chantier NLK2 se sont abrités contre la pluie qui menaçait. Il a été surpris par une balle perdue qui a percé d'abord la tôle du hangar avant de pénétrer dans son avant-bras gauche. Le monsieur se trouve actuellement interné dans un centre hospitalier de la MIBA. D'autres agents MIBA qui travaillent dans ce chantier affirment avoir entendu l'avant-midi de ce mercredi des tirs nourris au polygone. Selon le commandant de la brigade minière, le rapport de la commission mixte MIBA-brigade minière indique que ce sont des éléments incontrôlés qui creusent clandestinement le diamant sur la rive droite du polygone. À ce propos, le commandant de cette unité de la police a tenu une causerie morale pour rappeler à ces éléments le but de leur mission au polygone. Il leur a aussi demandé d'éradiquer le phénomène suicidaire pour chasser les creuseurs clandestins armés du polygone jusqu'à leur dernier retranchement. À la MIBA, on déplore le laxisme constaté auprès des services chargés de la sécurité du patrimoine de l'entreprise. Le chef des services généraux précise qu'une opération de ratissage sera effectuée au polygone dans les tout prochains jours. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
L'identification des stocks de minerais en souffrance et leur regroupement dans les sites des négoces sont en cours dans la province du Maniema. C'est le ministre provincial en charge de l'économie, mines et géologie qui l'a annoncé à Radio Okapi hier, juste après son retour du Kalima, cité minière située à 101 km de Kindu. 272 tonnes de cassitérite sont identifiées et regroupées dans ce centre de négoce et cela fait partie des mesures d'accompagnement de la décision du chef de l'État suspendant l'exploitation des minerais dans les deux Kivu et Maniema en vue de remettre de l'ordre dans ce secteur. Patrick Amissi-Loupia, il est ministre de l'économie, mines et géologie au Maniema. Il est interrogé par Mathieu Lunga-Chamboui.
Dans la province du Maniema, l'activité qui est en cours aujourd'hui, c'est l'identification de tous les stocks de minerais en souffrance. On reprend nom, poste, nom, les numéros de la carte des négociants, les bordereaux de versement à la banque, c'est-à-dire tous les minerais que détiennent les exploitants et artisanaux, les négociants, les comptoirs, doivent être regroupés dans les différents centres de négoce. Parce que l'objectif est que aussitôt que l'autorité va lever la décision, ça va permettre les circuits commercial, donc qu'il y ait traçabilité dans l'opération minière. Vraiment, c'est une opération qui a été suivie avec beaucoup de rigueur, tout simplement parce que nous sommes en train d'organiser ce secteur où il y a eu beaucoup de non-intervenants. Mais avec la décision du chef de l'État ici, ça nous permet de bien faire le travail.
Patrick Amissi-Loupia, ministre de l'économie de la province du Maniema. Il faut noter que dans le Maniema, 7 centres de négoce ont été retenus. Il s'agit de Kalima, Kailo, KCC, Punia, Lubutu, Kampen et Salamabila. Procès Floribert Chebeya. La troisième audience aura lieu le 10 décembre prochain. Cette date a été fixée au terme de la deuxième audience tenue ce vendredi à la prison centrale de Makala, ex-CPRK. Une audience au cours de laquelle partie civile et les avocats des accusés ont chacun présenté ses premières remarques à ce stade de l'instruction de l'affaire. Les détails avec Dona Madimba.
Pendant au moins 3 heures, une vingtaine d'avocats partis civils ou avocats de la défense réunis ont pris la parole pour échanger avec la cour et faire des remarques. Les avocats des accusés, par exemple, ont relevé quelques faits jugés irréguliers, mais ils ont surtout réclamé la liberté provisoire pour leurs clients qui, selon eux, n'ont rien à se reprocher. Maître Zima Kekambezi.
Nous avons parlé des décisions de la Cour suprême de justice qui a tranché abondamment que lorsque les poursuites ont été irrégulièrement entamées, eh bien, il faut donner main levée de la détention parce que ces poursuites n'ont plus un soubassement juridique.
De leur côté, les avocats de Floribert Chebeya, Fidel Bazana et La Voix des Sans Voix ont analysé l'aptitude de la cour militaire à instruire ce procès et ils ont fini par dire que selon eux, le procès de Floribert Chebeya et Allier n'a jamais été fixé à la cour militaire et ne peut légalement être instruit qu'à une juridiction supérieure, c'est-à-dire soit à la haute cour militaire, soit à l'auditorat général militaire, Maître Ntoto Alain.
C'est tout à fait quelque chose qui ne peut pas se concevoir. L'auditeur supérieur n'a pas instruit ce dossier. Dès lors, il ne revenait pas, il n'était pas de son ressort de fixer ce dossier devant la cour militaire.
Attendons donc vendredi prochain pour connaître la réponse réservée par la cour à toutes ces préoccupations.
7h10 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.